VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, au micro Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'écoute de cette édition du lundi 1er février 2016. À la une ce matin.
Boko Haram a encore frappé ce week-end, on compte des dizaines de morts au Tchad et au Nigeria.
Au Congo-Brazzaville, un autre opposant s'est lancé hier dans la course à la présidence.
En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur annonce le lancement de la révision du fichier électoral pour le 10 février.
Syrie, au moins 70 personnes ont été tuées dimanche dans une triple explosion dans la banlieue de Damas. Le groupe État islamique revendique.
Ici aux États-Unis, les candidats aux primaires ont occupé ce week-end le terrain dans l'Iowa avant le vote crucial de ce lundi.
Comme tous les matins, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Boko Haram a donc encore frappé ce week-end au Tchad. Deux attentats suicides ont fait 3 morts hier et 56 blessés dans la région du lac Tchad. La première attaque a visé hier la localité de Guié. Un kamikaze circulant à moto s'est fait exploser, tuant au moins une personne. Un deuxième attentat suicide a fait 2 morts dans le village de Miterine. La région du lac Tchad est pourtant sous état d'urgence. Par ailleurs, au Nigeria voisin, dans le nord-est du pays, au moins 50 personnes ont été tuées samedi soir par les djihadistes. Malam Massa, un chef local, a affirmé que Dalori, un village proche de Maïdougouri, a été entièrement rasé. Mustapha Anka, porte-parole de l'armée nigériane, précise que les assaillants, arrivés dans 2 voitures et des motos, ont ouvert le feu et incendié les maisons. 3 femmes kamikazes ont été interceptées puis ont explosé au milieu des villageois.
Les 4 pays riverains du lac Tchad ainsi que le Bénin ont mis sur pied une force conjointe de 8700 hommes pour combattre Boko Haram. Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, tout nouveau président en exercice de l'Union africaine, estime que cette coalition a affaibli la nébuleuse islamiste, mais pour autant, elle ne s'avoue pas vaincue.
Et c'est dans ce contexte qu'Amnesty International dénonce la réintégration dans l'armée nigériane d'un général accusé d'être responsable du meurtre de milliers de prisonniers dans le cadre de la lutte contre le mouvement islamiste Boko Haram. L'Organisation de défense des droits de l'homme avait réclamé en juin dernier l'ouverture d'une enquête sur le général Ahmadou Mohamed et 8 autres hauts gradés nigérians et leur possible implication dans des crimes de guerre, incluant la mort de plus de 8000 détenus.
Pour Amnesty, il existe suffisamment de preuves pour que la Cour pénale internationale de La Haye lance une enquête sur ces militaires. Amnesty affirme que cet officier démis de ses fonctions au printemps 2014 vient d'être réintégré le 17 janvier. Les autorités militaires nigérianes n'étaient pas joignables immédiatement pour confirmer le rappel du général.
Au Mali, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile était à Mopti ce week-end. Le colonel-major Salif Traoré était venu prendre contact avec ses hommes, puis évoquer les défis sécuritaires qui s'imposent dans la région de Mopti. Le point avec notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Après Tombouctou et Gao, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est rendu à Mopti ce week-end. Objectif, prendre contact avec le commandement du secteur 4 de la 6e région militaire du Mali, puis visiter les services relevants de son département. Le colonel-major Salif Traoré est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Il s'agissait essentiellement de venir prendre contact, rassurer les troupes, les féliciter pour ce qu'elles font et les encourager à continuer davantage.
Depuis la récupération des régions nord et une partie du centre du Mali aux mains des groupes armés et des djihadistes, la région de Mopti vit dans une insécurité presque totale et les hautes autorités en sont conscientes. Colonel-major Salif Traoré.
Nous avons déjà eu la visite de tous les élus, aussi bien les députés que les maires de la région qui se sont déplacés jusqu'à Bamako pour rencontrer le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense. Nous avons reçu des écrits également du gouverneur de la région. C'est pourquoi il y a une série d'opérations qui sont en cours déjà et des dispositions sont en cours pour créer de nouveaux postes de sécurité et de nouvelles implantations d'unités pour marquer le terrain. Des commandes d'équipement et d'armement sont en cours qui vont bientôt arriver et nous allons renforcer le potentiel des unités qui sont ici sur place. Et il y a d'autres projets de brigades fluviales qui vont arriver ici avec des vedettes parce que nous savons également que l'eau joue un grand rôle ici parce que nous avons beaucoup de zones qui sont difficilement accessibles.
Avec ces hommes, le premier responsable de la sécurité des Maliens est très clair. Les mérites vont être récompensés et à temps et les fautes seront sanctionnées comme il se doit. Mamoudou Bokoum Mopti pour VOA Afrique. Africa.
Au Mali toujours, les trois soldats maliens tués jeudi sur la route entre Gao et Gossi lors de l'attaque contre une escorte militaire ont été inhumés samedi. Une importante foule composée d'officiers et de civils s'était réunie au cimetière du château pour leur rendre un dernier hommage.
Au Congo-Brazzaville, un autre opposant s'est lancé hier dans la course à la présidence. Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis plus de 30 ans, est déjà candidat à sa propre succession au scrutin du 20 mars prochain. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Pascal Sati Mabiala, premier secrétaire de l'UPADS, a été investi hier. Il est le deuxième candidat de l'opposition à vouloir croiser le fer avec le président sortant. Sati Mabiala, âgé de 66 ans, est président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il a été ministre de la Défense de Pascal Lissouba pendant la guerre civile de 1997 par laquelle Sassou Nguesso était revenu au pouvoir. L'UPADS avait par la suite boycotté les élections de 2002 et 2009. Ce parti est membre du FROCAD, une des deux coalitions de l'opposition qui avait fait campagne contre le référendum d'octobre qui a permis à Sassou Nguesso de se représenter. Samedi, André Okombi Salissa, plusieurs fois ministre, a lui aussi annoncé sa candidature. Le Parti congolais du travail, PCT, au pouvoir, a déjà investi son porte-drapeau qui, sans surprise, est Denis Sassou Nguesso. Il dirige le Congo depuis 1979, en dehors de la parenthèse Pascal Lissouba, qui avait gagné les élections de 1992.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Égypte, deux policiers et deux militaires ont été tués dimanche dans deux attaques à la bombe dans le Sinaï, théâtre d'une insurrection djihadiste. C'est ce qu'ont indiqué des responsables de la sécurité. À l'aube, deux policiers ont été tués dans l'explosion d'une bombe déclenchée à distance au passage de leur véhicule blindé lors d'une opération de ratissage dans le secteur de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. Ont précisé les responsables cités par l'AFP. Un officier de l'armée et un soldat ont également été tués dans une attaque similaire dans la région de Sheikh Zouaid, dans le Nord Sinaï, selon les mêmes sources.
En Syrie, au moins 70 personnes ont été tuées dimanche dans une triple explosion près d'un sanctuaire chiite dans la banlieue de Damas. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une voiture piégée a explosé devant un arrêt de bus à proximité du sanctuaire de Sayyida Zainab, un haut lieu du chiisme qui abrite le mausolée de l'une des petites filles du prophète Mahomet, a rapporté l'agence officielle Sana. Deux kamikazes ont ensuite déclenché leur ceinture d'explosifs au moment où des témoins se rassemblaient sur la scène, selon l'agence. Cet attentat intervient alors que des pourparlers sous l'égide de l'ONU tentent de trouver une issue au conflit syrien à Genève.
Migration vers l'Europe, une pétition en faveur de la nomination au prix Nobel de la paix des habitants des îles grecques a recueilli quelques 6000 signatures. Les pourparlers des îles grecques de la mer Égée font encore tout ce qu'elles peuvent pour aider les réfugiés syriens, bien qu'elles soient depuis de nombreuses années victimes d'une sévère crise économique, soulignent les auteurs de la pétition lancée en novembre.
Arabie Saoudite, 9 Américains ont été arrêtés au cours de la semaine écoulée pour des liens présumés avec le terrorisme. Un responsable du département d'État américain, cité par l'AFP, a confirmé que Washington était au courant de ces informations, mais s'est refusé à tout autre commentaire.
Ici aux États-Unis, les candidats aux primaires ont occupé ce week-end le terrain dans l'Iowa avant le crucial vote de ce lundi. Donald Trump et Hillary Clinton sont en tête des sondages, mais pas assez pour prédire une victoire. Idriss Fall.
D'après le dernier sondage réalisé par le journal Des Moines Register, Hillary Clinton est préférée par 45% des démocrates de l'Iowa qui vont participer ce soir au caucus. Et elle est talonnée par le sénateur Bernie Sanders qui a la sympathie de 42% des démocrates. Il séduit la jeunesse avec sa dénonciation de la classe des milliardaires et son appel à une révolution politique. Ce soir, la mobilisation des étudiants pourrait aider à faire la différence. D'ailleurs, Madame Clinton a reconnu que la course est très serrée. Elle a multiplié les déplacements dans l'Iowa, exhortant les électeurs à choisir l'expérience plutôt que la nouveauté. Côté républicain, Donald Trump recueille 28% des intentions de vote devant Ted Cruz, sénateur du Texas, avec 23%. En troisième place, Marco Rubio, sénateur de Floride, qui recueille 15% des intentions de vote. D'origine cubaine, Rubio, qui rassemble les foules, est souvent cité comme second choix, tant par les partisans de Donald Trump que ceux de Ted Cruz. Après l'Iowa, les candidats vont aller battre campagne dans le New Hampshire, où les primaires auront lieu le 9 février.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën investit dans la recherche automobile en Afrique. L'Open Lab, pôle de recherche et de développement, va voir le jour dans la capitale marocaine en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Les travaux de recherche se concentreront sur trois axes, la mobilité électrique, les énergies renouvelables et la gestion de la chaîne logistique. La croissance économique du Nigeria a atteint 3% pour 2015, le taux le plus faible depuis plus de 10 ans, selon un rapport du Fonds monétaire international. Alors que des pays pétroliers comme la Norvège ont anticipé les fluctuations des cours du brut, le Nigeria, rongé depuis de longues années par la corruption, est très dépendant des importations et a dû largement puiser dans ses réserves financières. Le pays a annoncé le mois dernier un budget record de 6 080 milliards de naira, environ 28 milliards d'euros pour 2016, afin de stimuler la croissance. Dans le cadre d'une vaste opération d'enquête ciblant le secteur financier menée par le gouvernement chinois, Citibank, un établissement financier chinois de taille moyenne, a été victime d'une fraude montée par des employés et qui pourrait lui coûter jusqu'à 135 millions d'euros. Selon Bloomberg News, un employé et plusieurs de ses collègues ont pu convaincre la banque d'émettre des titres financiers frauduleux qu'ils auraient ensuite revendus. Citibank a indiqué que la police a été saisie.
La Minute Éco, merci Anastasie. Plein feu sur les stades, les sports avec Élisée Oumpatine. Football, on connaît les demi-finalistes du championnat d'Afrique des Nations. Un dernier carré sans le pays hôte, le Rwanda.
Oui, les Amavubi ont été sortis par la RD Congo après prolongation, 2-1. Le but égalisateur de Sugira n'aura pas servi à grand-chose puisque l'espoir de qualification s'est évanoui à la 113e minute de jeu sur un but de Bompunga. En demi-finale donc, les Léopards vont affronter la Guinée. Le Sili a battu la Zambie au terme d'un match long et plein de stress. Et c'est au tir au but que les hommes de Kamfori Lapé Bangoura ont arraché leur qualification. 5-4, 0-0 après les 120 minutes de jeu. Congolais et Guinéens vont s'affronter ce mercredi à Kigali.
La seconde affiche de ces demi-finales mettra aux prises la Côte d'Ivoire et le Mali.
Effectivement, un derby ouest-africain. Les éléphants se sont imposés sur le Cameroun 3-0 à l'issue d'une prolongation vraiment décisive pour le coup là, puisque les trois buts ont été inscrits durant cette période. Côté Mali, c'est la Tunisie qui a laissé sa chance en s'inclinant sur la marque de 2-1. Les Maliens vont donc jouer les Ivoiriens jeudi prochain.
On reste au Rwanda pour annoncer que le Kenya va accueillir l'édition 2018 de ce CHAN.
L'information a été donnée hier par la Confédération africaine de football dans la capitale rwandaise. La 5e édition de cette compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent sera donc organisée par le Kenya, le 3e pays de la CECAFA qui va accueillir le tournoi après le Soudan en 2011 et le Rwanda cette année. Les responsables du football kenyan seront à Kigali le 7 février prochain pour une cérémonie officielle.
Du handball, Élisée, l'Égypte devient reine du continent en remportant chez elle la masculine 2016.
Et c'était pratiquement écrit, même si les pharaons ont bataillé jusqu'au bout pour battre la Tunisie 21-19 devant le très enthousiaste public du Caire. 6e sacre pour les Égyptiens dans une CAN, le premier depuis 2008 et surtout dans leur poche un aller simple sans escale pour les Jeux Olympiques de Rio. Les Tunisiens, eux, ont encore une chance d'aller au Brésil, mais il faudra passer par un des trois tournois de qualification programmés début avril. L'Algérie, elle, n'y aura même pas droit. Sa défaite 25-19 face à l'Angola pour la 3e place prive les tenants du titre sortant de participation même au Mondial 2017 en France. Et puis, pour terminer, du basketball, la NBA avec vous, les résultats des matchs joués cette nuit.
Les champions en titre, Golden State Warriors, ont dominé les New York Knicks, 116-95. Les Los Angeles Clippers ont signé une 4e victoire consécutive en dominant les Chicago Bulls, 120-93, Atlanta-Miami, 87-105, Boston Celtics-Orlando Magic, 114-119, Phoenix-Dallas, 78-91, Minnesota-Portland, 93-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale, la République centrafricaine, troisième jour ce lundi de la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 14 février prochain. 72 heures après le lancement officiel, rien ne se précise dans la capitale, Bangui. Il faut dire que certains candidats affirment ne plus avoir les moyens de battre campagne. Freeman Sipila.
Trois jours après le lancement officiel de la campagne, la majorité des quartiers généraux sont encore déserts. Aucun candidat ne s'est officiellement prononcé aux électeurs. Dans les rues, seules les effigies, parfois déchirées, des candidats aux élections du 30 décembre dernier sont encore visibles. Le problème, certains candidats affirment qu'ils n'ont plus les moyens financiers de se présenter aux élections à l'issue des législatives du 30 décembre annulées par la Cour constitutionnelle de transition. Timothée Fikoumo Mandia, candidat dans la circonscription du 8e arrondissement de Bangui.
La Cour constitutionnelle avait précisé que en cas d'annulation totale, la loi prévoit une reprise dans les 60 ou 90 jours. Aujourd'hui, un décret du gouvernement centrafricain nous invite à repartir tout de suite aux élections. Techniquement, nous ne sommes pas prêts parce que la loi était claire. C'est pas pour rien que le législateur a prévu 60 ou 90 jours.
Si certains candidats n'ont plus les moyens, d'autres par contre se préparent à repartir sur le terrain comme Anne-Marie Goumba, candidate indépendante dans la circonscription du 5e arrondissement de Bangui.
Comme on a commencé dans le désordre, on continue dans le désordre et puis on verra ce que ça va nous donner, tout en espérant que quand même les choses vont se passer bien. Je suis prête vraiment pour le terrain.
Une quarantaine de candidats indépendants regroupés au sein d'un collectif rejettent l'initiative de l'organisation du second tour de la présidentielle couplée avec le premier tour des législatives. Pour ce collectif, il faudra 2 mois à l'autorité nationale des élections pour organiser les législatives afin de ne plus retomber dans les mêmes erreurs du passé. Prosper Daouda, candidat aux législatives dans la circonscription de Dekoua, vice-président du dit collectif.
D'après même le langage technique de l'ANU de la Cour constitutionnelle des irrégularités, qui demande aujourd'hui que tout le monde puisse repartir à zéro. Et notre collectif qui est mis en place a pour but de demander que les élections se tiennent, bien évidemment, mais tout en tenant compte du délai imparti par la Cour constitutionnelle de 60 jours. Parce que nous avons eu entendre que les élections se tiendront le 14. Alors le 14 ne sera pas vraiment réaliste à notre avis, raison pour laquelle nous avons mis en plan collectif et nous déclinons bien avant pour que nous ne puissions pas encore récolter le même goût que nous venons de désavouer.
À l'autorité nationale des élections, l'on assure avoir pris toutes les dispositions en vue du second tour de la présidentielle couplé avec le premier tour des législatives le 14 février prochain, 48 heures après la fin de la campagne électorale. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la révision du fichier électoral pour le 10 février. Cette opération technique pourrait prendre jusqu'à 13 mois, ce qui rendrait presque impossible la tenue de la présidentielle d'ici fin 2016, comme le prévoit la Constitution. Idriss Faye a recueilli la réaction d'Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
C'est une déclaration de guerre que le régime de M. Kabila et ses suppôts viennent de lancer contre le peuple congolais qui souffre de la mauvaise gestion du régime Kabila depuis 15 longues années. La face cachée de la déclaration faite par M. Évariste Boshab, il s'agit tout simplement de contourner insidieusement le prescrit de la Constitution qui ne permet pas à M. Kabila d'aller au-delà de son ultime mandat. Et ça, les Congolais ne vont pas accepté.
Apparemment, le ministère de l'Intérieur a pris les devants.
Monsieur Boshab a doté la milice du régime d'un dispositif logistique pour réprimer les Congolais, mais les Congolais ne vont pas se laisser faire. Ils doivent être assez outillés pour barrer la route aux plus de 80 millions de Congolais qui, dans leur large majorité, disent non au maintien au pouvoir de Monsieur Kabila. En 15 15 ans d'exercice de pouvoir, M. Kabila a brillé par un bilan globalement négatif. Et comme il veut restaurer ou instaurer un règne dictatorial et tyrannique dans notre pays, la coalition des Congolais pour la transition et les autres forces alliées allons travailler sans répit et sans repos pour que les Congolais retrouvent leur liberté qui est piétinée par ceux qui étaient censés la faire respecter.
Mais on a l'impression que les prolongations sont dans l'air du temps dans la sous-région Burundi, Ouganda, Rwanda et même votre voisin direct, le Congo-Brazzaville.
Exactement. Nous sommes en train d'assister à une érection d'un cartel de dictateurs en Afrique qui ne savent rien faire pour leur population, mais qui n'ont que pour seul objectif la fin des démocraties et la fin des aspirations de leur peuple. Mais M. Kabila et son régime doivent savoir que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous avons dit non, trop c'est trop. 15 ans, M. Kabila les a exercés en utilisant des élections frauduleuses, meurtrières. Maintenant, ça suffit. La patience des Congolais est épuisée.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle, couplée aux législatives prévues le 21 février prochain, et s'est ouverte ce week-end. Fait marquant, un des candidats, Amadou, est toujours emprisonné pour une affaire de trafic de bébés. C'est par ailleurs l'incertitude sur le vote de près de 2 millions de Nigériens inscrits sur les listes électorales, mais ne disposant pas de pièces d'identité. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est l'une des conclusions de l'audit du fichier électoral conduit par l'Organisation internationale de la francophonie. Près de 2 des plus de 7 millions d'électeurs recensés ne disposent pas de pièces d'état civil. S'ils doivent voter, ce sera alors, comme au recensement, 2 personnes doivent témoigner. Or, la loi électorale nigérienne n'a pas prévu le vote par témoignage. Face à ce risque de voir un pourcentage aussi important d'électeurs mis sur le carreau, la question a été posée à la dernière réunion du Conseil national de dialogue politique et les positions sont tranchées entre les deux camps. Ibrahim Tamponé du MNS de Nassara, le principal parti de l'opposition.
La loi ne l'a pas prévu. Et puisque la loi ne l'a pas prévu, nous pensons qu'il faut respecter la loi. Je ne sais pas si la CENI peut modifier la loi. Il appartient à la CENI d'examiner la situation et de prendre la position qu'elle juge être la meilleure pour le pays. Mais nous insistons pour le respect de la loi.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire harakiri ?
Mais nous en sommes bien conscients. On assume.
À la majorité, l'on avance le principe du droit constitutionnel qu'a chaque Nigérien de pouvoir voter. Boubacar Sabo, membre du comité exécutif national du PNDS Tareya, le parti au pouvoir.
C'est un droit constitutionnel le fait de voter. Donc les dispositions réglementaires ne peuvent pas être au-dessus de la constitution. C'est une omission au niveau de la loi. Les juristes appellent ça même une erreur matérielle. L'opposition, en réalité, ils sont pour que les 1 200 000 votent, mais ils veulent faire de la surenchère, de la politique, et puis pouvoir remettre en cause les résultats.
Le président du Conseil national de dialogue politique, le premier ministre chef du gouvernement, a renvoyé la question à la Commission électorale nationale indépendante. À 3 semaines de l'élection, la décision de cette dernière est encore attendue. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Les Maliennes disent non aux violences faites aux femmes. Suite à l'assassinat de Kamissa Sissoko par son mari, des femmes ont organisé un recueillement et une marche à Bamako ce week-end. Kassim Traoré s'est rendu sur place.
C'est le samedi 23 janvier 2016 que Kamissa Sissoko a été assassinée par son mari qui lui a tiré une balle dans sa tête. C'était à l'ACI 2000 de Bamako. Une semaine après, les femmes viennent se recueillir sur le lieu du drame. Traoré Oumou Touré, président de la coordination des ONG organisations féminines du Mali.
Je ne suis pas venue seulement en femme, je suis venue en mère, je suis venue même en citoyenne pour dénoncer un acte et puis prier pour la bonne dame, pour que son âme repose. Notre société ne connaît pas ça. Le mariage est une nécessité, mais tuer quand même n'est pas une nécessité. Et nous pensons que ces formes de violence sont étrangères à notre société. Il faut que tout le monde se mobilise. Et avoir cette dame mourir à cet âge, l'âge où elle devrait éduquer ses enfants, deux petites filles très jolies.
Après le recueillement, c'était la marche qui est partie du monument de l'indépendance pour le centre Awa Keïta.
Je suis Fatou Sila. Je viens pour soutenir les femmes qui subissent la violence. C'est peut-être une occasion pour faire comprendre à ces femmes-là les risques qu'elles prennent en gardant pour elles seules ce qu'elles vivent au quotidien.
Je m'appelle Aïssata Ibrahim Meiga, je suis journaliste. Je suis là pour inciter les victimes à parler de leur carvère. C'est briser le silence autour des violences conjugales.
Parmi les marcheurs, il y avait des autorités du pays, comme la présidente des femmes parlementaires du Mali, Fomba Fatoumata Nyambali.
La déclaration qui vient de nous être remise, nous allons en faire bon usage. Il y avait d'autres formes de violence maintenant. Les crimes qui sont en train de s'associer est inquiétant. Nous allons essayer d'initier une loi contre les violences conjugales et les violences basées sur le genre en général. Parce que souvent, les hommes sont victimes autant que les femmes.
Si la marche a été dominée par les femmes, il faut reconnaître quelle est l'initiative d'un homme, Bala Mari, président de Solidarité 223.
La marche, c'est pour dénoncer toutes les formes de violence conjugale. Les femmes sont violentées, les hommes aussi sont violentés. Donc la marche a pour but de dénoncer toutes les formes de violence subies dans un couple. Il est clair que quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, la personne doit être sanctionnée et punie par la loi. Donc que la justice soit faite.
Des grands comédiens maliens, Habib Damelédi Guima National, revenu de la France, était aux côtés des femmes pour les soutenir dans ces moments difficiles.
Les gens le disent comme ça, mais les gens ne sont pas conscients de tout le danger que courent ces femmes-là autour de nous. Il n'y a pas si longtemps, il paraît qu'une femme s'est fait casser un œil par son mari. Et il n'y a pas si longtemps que ça, une femme s'est fait poignarder par son mari. Ça et ce cas-là, une femme qui vient de se faire tirer directement, donc à bout portant, franchement.
Le slogan de cette marche était « Tape ton tam-tam, mais pas ta femme ». Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et nous partons maintenant au Tchad pour parler de la situation des réfugiés. Le représentant du HCR au Tchad a tenu une conférence de presse ce week-end à N'Djamena. Bilan et perspectives en matière de protection et assistance aux Soudanais, Centrafricains et Nigérians étaient au centre des débats. Le point avec André Komedjingar.
Le Tchad est le quatrième pays en Afrique à accueillir plus de réfugiés sur son sol, selon le représentant du HCR au Tchad, Josué Antonio Kanandola. Pour lui, plus de 370 000 réfugiés repartis en quatre groupes vivent sur le territoire tchadien. Pour mieux les prendre en charge, le représentant du HCR informe que son institution les classe en deux catégories en tenant compte de leur situation. Il s'agit de réfugiés soudanais et centrafricains qui ont plus ou moins les mêmes problèmes.
Nous avons défini pour ces deux groupes de réfugiés, première chose, c'est la protection effective que nous et l'État tchadien donnons à ces réfugiés. La deuxième chose, c'est l'assistance, c'est leur donner tout ce dont ils ont besoin pour avoir une bonne santé.
Ensuite, il y a les réfugiés urbains qui vivent en N'Djamena et le groupe récent de réfugiés nigériens que le HCR assiste de façon particulière compte tenu de leur situation délicate.
Dans la situation nigérienne, il y a un gros problème de sécurité dans la zone du lac. Donc aussi, la protection représente pour nous non seulement la protection légale, mais aussi la protection physique dans la zone du lac. Et puis pour les réfugiés urbains, c'est essayer de voir quels sont les services qu'on peut donner. On ne peut pas assister aux réfugiés urbains en leur donnant l'alimentation, etc., etc. Sinon, ça va créer un camp en ville. Donc tout ce qu'on fait, on se concentre sur la santé et l'éducation.
L'assistance et protection, oui. Mais José Antonio Kanandola estime qu'il faut explorer d'autres pistes pour les rendre libres et autonomes.
Nous avons la tendance d'assister les réfugiés à l'infini, mais à un moment donné, la dépendance de l'assistance humanitaire fragilise l'être humain. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement et les autres organisations pour essayer de donner aux réfugiés les capacités d'autosuffisance pour redonner la dignité aux réfugiés Et pour cela, il a besoin de la liberté de mouvement. On est en train de discuter avec le gouvernement pourquoi un être humain doit être gardé dans un camp. C'est historique, mais le camp limite la capacité de l'être humain.
Dans la perspective 2016, des discussions sont déjà engagées avec les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, afin de relever ce défi, rassure le représentant du SR au Tchad. Il invite par ailleurs les Tchadiens à considérer ces réfugiés comme des êtres humains qui sont dans une situation difficile et non les stigmatiser. André Koduma Dingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. À la mise en onde, Anne Alberson. Présentation, Morgane Guiriac. Excellente journée à tous et retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com.